Bonjour et bienvenue dans la Bibliothèque et compagnie. Vous êtes sur Radio Rennes et sur Radio Évasion. Et pendant 30 minutes, nous allons prolonger la petite discussion que nous avons eue la semaine dernière avec Pierre Poucheret. Pierre Poucheret, c'est un ancien policier qui a mené une carrière en France, mais aussi beaucoup à l'étranger, et qui a sorti plusieurs romans policiers chez Gigal, et qui a aussi obtenu le prix du Quai des Orfèvres en 2017. Il est revenu en début d'année 2018 avec un roman édité dans la nouvelle collection 109 chez Plon. Le roman s'appelle Tuez-les tous, mais pas ici. Et je vous invite à prolonger, à poursuivre notre rencontre avec cet auteur installé dans le Finistère et que je vous conseille vivement de lire, bien évidemment. Bonjour, aujourd'hui sur Radio Rennes et Radio Évasion, on est comme la semaine dernière avec Pierre Poucheret. Bonjour Pierre.
Bonjour, merci de m'accueillir, j'ai presque l'impression d'être chez moi maintenant.
Vous êtes toujours chez vous dans cette émission, Pierre. Alors Pierre, la semaine dernière, on a parlé d'un livre qui s'appelle « Tuez-les tous ». Mais pas ici, un livre qui est sorti aux éditions Plomb dans une nouvelle collection qui s'appelle 109. On pourrait peut-être commencer par là d'ailleurs, c'est que vous nous expliquiez comment vous, qui êtes donc un produit, si je puis dire, de l'école Gigale, vous êtes passé, vous avez eu le prix du Quai des Orfèvres dont on parlera tout à l'heure, et là vous sortez parmi les premiers, hein, vous êtes quoi, il y a 5 ou 6 bouquins peut-être qui sont sortis, vous êtes dans la première promotion, si je puis dire. Comment on arrive chez un gros éditeur et avec, dans une collection toute neuve?
Le directeur de collection, c'est Marc Fernandez. Et j'ai eu la chance, Marc, qui était rédacteur en chef du magazine Alibi, avait apprécié ce que j'écrivais quand j'étais chez Gigale. Et il avait notamment mis dans la liste des 100 polars incontournables une Terre pas si sainte. Et quand Marc a créé sa collection, il m'a contacté en me demandant si ça m'intéressait de faire un polar chez lui. Et voilà comment l'idée a germé.
Donc c'était une commande, et dans ces cas-là, vous proposez une idée ou c'est accepté d'office?
Alors comment ça a marché? En fait, moi j'ai proposé à Marc deux ou trois idées. J'ai rédigé une centaine de pages et on est parti sur « Tuez-les tous, mais vas-y ici ».
Et alors, être engagé dans une équipe comme ça, où il y avait, Janice Otsenmi, c'était le premier, il y avait Marie Vindy, il y en a quelques autres dont j'oublie les noms, mais est-ce qu'on a l'impression de faire partie d'une petite famille, de faire une expérience, parce que c'est une nouvelle collection, d'être bien soutenu, parce que c'est quand même les éditions Plomb?
Ah bah déjà, on a tout ça. On a l'impression de faire partie d'une nouvelle équipe. C'est un vrai team. On travaille ensemble avec Marc et puis on est super bien soutenu. Il y a toute la machine Plomb qui est D8 qui est derrière, que ce soit pour la recherche de salon, la correction, les contacts avec la presse. Oui, on a vraiment une grosse équipe derrière.
Et ça sent, vous sentez la différence par exemple par rapport à Gigale qu'on a déjà reçu dans cette émission d'ailleurs, mais... vous sentez une différence ou pas trop?
Ah ben on sent qu'il y a d'abord il y a une force de frappe qui est différente, hein, puisque mes livres sont disponibles dans beaucoup plus de points de vente qu'était Gigale. Mais bon, d'abord il faut aussi rendre hommage à Gigale et à Jimmy Gallier qui fait quand même un super travail avec très très peu de moyens. Hein. Mais il y a toute la distribution qui est évidemment plus forte avec 109 et 18 derrière.
Et dans ces cas-là, quand on est dans une plus grosse structure, est-ce qu'on a les coudées moins franches ou ça va?
Et bah, pour le moment, je suis au premier livre. Tout va bien, hein, pourvu que ça dure.
Non, mais je veux dire, il n'y avait pas de consigne d'écriture ou de choses qu'on vous a fait changer parce que, je sais pas, il faut toucher un public plus large, etc. Non?
Non, j'étais assez libre. Sinon, qu'au début, on a travaillé ensemble quelle serait l'idée de ce livre. Mais une fois que ça a été lancé, j'ai eu totale liberté pour l'écriture.
Et alors, est-ce qu'on a, je me posais la question, en comparant les volumes de 109, est-ce qu'on a des contraintes de volume, par exemple?
C'est-à-dire?
De nombre de pages. Est-ce qu'on dit, par exemple, au-delà de tant de pages, ça va coûter trop cher à la fabrication, que sais-je?
Pour le moment, sur ce livre, j'ai absolument pas eu ce problème.
Alors, Pierre, précédemment, vous avez publié un livre qui est sorti chez Fayard, tout simplement parce que vous avez eu le prix des Quai des Orfèvres 2017. Expliquez-nous un petit peu, parce que moi je l'ai découvert avec vous, mais comment ça marche, le prix du Quai des Orfèvres?
Alors c'est très particulier, le prix du Quai des Orfèvres. C'est un prix qui est gagné tous les ans par le même éditeur, Fayard. Ce prix a un secrétariat et tous les ans, les gens qui veulent postuler pour le prix envoient un texte anonyme accompagné d'une enveloppe qui est cachetée, et dans cette enveloppe sont mentionnés vos noms, adresses, numéro de téléphone. Et le titre du texte que vous avez envoyé. Le secrétariat en reçoit comme ça, en mode tapuscrit, une centaine. en garde une vingtaine qu'il transmet à Fayard. Fayard en conserve 6 qu'il estime avoir une bonne qui pourront être facilement commercialisés. Et ces 6 exemplaires sont donnés au jury. Le jury, c'est un jury de 22 membres, dont 11 membres sont des policiers. Pour la plupart, d'anciens directeurs de la police judiciaire de la préfecture de police. Les autres membres étant journalistes, hauts fonctionnaires, cinéastes, puisqu'il y a M. Schoenderfer qui en fait partie, et ainsi de suite. Et tout ce petit monde a tout l'été pour lire les 6 manuscrits. Ils se réunissent mi-septembre. Il décide quel sera le tapuscrit qui va être le prix du Quai des Orfèvres. Et à l'issue de leur réunion, ils ouvrent l'enveloppe et ils vous appellent. Et à partir de là, pendant 2 mois, se met en route tout ce qui est politique éditoriale, la création de la couverture, de la 4e de couve, la correction du livre, jusqu'à la finalisation mi-novembre. Ou alors tout ça c'est sous embargo, hein. On ne doit pas savoir qui est le lauréat. Le lauréat est officiellement, son nom est officiellement annoncé par le préfet de police aux alentours du 15 novembre chaque année.
Alors ça veut dire quand même que on privilégie, j'imagine, l'intrigue policière, c'est pas tellement du roman noir, c'est plutôt du roman policier pour le coup.
Alors c'est souvent du roman qu'on qualifie d'un peu procédural, hein. Il faut que ça colle, il y a quand même un exercice particulier, il faut que ça colle à la réalité policière. C'est-à-dire que bon, il vaut mieux ne pas trop noircir l'image du policier et de ses chefs de service, puisque c'est ces mêmes chefs de service qui vont décider quel sera le lauréat. À partir du moment où le lauréat est donné, enfin on connaît le lauréat, ça se passe à peu près aux environs de midi le 15 novembre, et dès l'après-midi, votre livre, il est à peu près dans toutes les librairies de France. Ça, c'est
le jour même.
Le jour même. Et le lendemain, il est absolument partout. Et là, il y a une mise en place qui est entre 90 jusqu'à 120 000 exemplaires.
Regardez-la danser quand elle s'approche du ring. La boxeuse amoureuse, la boxeuse amoureuse. Sur ses gants dorés, des traces de sang, de larmes et de sueur. Et de sang, et de sang. Elle esquive les coups. La boxeuse amoureuse. Elle absorbe tout. La boxeuse amoureuse. Boum boum les uppercuts, uppercute son visage. Mais jamais elle ne cesse de danser. Tomber ce n'est rien, puisqu'elle se relève, un sourire sur les lèvres, un sourire sur les lèvres. Elle esquive les coups. boxeuse amoureuse. Elle absorbe tout. La boxeuse.
Nous sommes toujours avec Pierre Poucheret sur Radio Rennes et Radio Évasion. Pierre, on parlait de la remise du prix du Quai des Orfèvres, enfin, du prix du Quai des Orfèvres que vous avez obtenu. Mais vous avez une remise des prix digne de votre talent, on peut le dire.
Alors, je ne sais pas si c'était digne de mon talent, mais disons que j'ai eu la chance que ce soit une remise de prix très particulière. Pourquoi ? Parce que en 2017, on était aux 70 ans du prix du Quai des Orfèvres. En même temps, l'année précédente, il y avait eu malheureusement l'attentat du Bataclan. Donc, il n'y avait pas eu de remise officielle. Il y avait juste eu une proclamation des résultats. Et dernier point, c'était la dernière année que cette remise avait lieu au 36 Quai des Orfèvres. Puisque la police judiciaire parisienne a déménagé pour se retrouver dans un autre quartier de Paris. Alors, pour cette remise... il avait été décidé qu'il y aurait plusieurs parrains, et parmi ces parrains, il y avait notamment Alain Delon et Jean-Paul Belmondo. Donc, effectivement, pour moi, qui ai un certain âge, hein, malheureusement, me retrouver avec deux stars de mon enfance sur un plateau sous les crépitements de flash, c'était plus que magique.
C'était un rêve de gamin, là, vous le saviez, vous l'avez su longtemps avant ou quoi ?
Alors, je l'ai su la veille. Oui, enfin, un rêve de gamin, je ne sais pas. Mais je vais vous dire très franchement, quand il y a des proclamations comme ça de résultats, j'ai toujours trouvé un peu ridicule ces gens qui remercient leurs parents. Je me suis trouvé dans ce cas-là. Quand on est sur le plateau, qu'on est à côté de stars comme ça, on se dit, putain, s'il y avait mon père et ma mère, qu'est-ce qu'ils seraient fiers de moi ? Voilà.
Et alors, racontez-moi, je reviens un petit peu en arrière, mais j'imagine, vous avez reçu un coup de fil, on vous a dit que vous avez gagné le prix du Quai des Orfèvres, vous êtes un peu tombé de votre chaise ou quoi ?
Alors, tombé de ma chaise, non, c'est une immense joie, on ne tombe pas de sa chaise parce qu'on espère ça, mais c'est une immense joie qui vous prend. Et puis jusqu'à tout est magique, hein. C'est juste du rêve, hein. C'est des choses qui se reproduiront plus. On parlait de mes livres habituels. C'est pas un secret. Ce que je produisais avant, c'est ni plus ni moins qu'un siècle de mes productions habituelles avec Fayard.
Et est-ce que justement ces livres-là bénéficient maintenant de votre nouvelle aura? Est-ce qu'il y a un impact au prix du Quai des Orfèvres? Vous le sentez auprès des lecteurs? Vous le sentez auprès des libraires, des organisateurs de salons?
Alors il faut garder la tête froide. Hein. Beaucoup de gens achètent le livre du Quai des Orfèvres sans même savoir qui est l'auteur qui l'a écrit. Le petit bandeau prix du Quai des Orfèvres fait qu'ils ont leur œil attiré et que tous les ans ils achètent le prix du Quai des Orfèvres sans forcément savoir qui est l'auteur. Après, sur un salon, ça a toujours une répercussion. La répercussion, c'est cet effet, les gens passent, ils voient votre livre, et ils disent « Ah, celui-là, je l'ai lu ». Si avec un peu de chance, ils l'ont aimé, il y a quand même beaucoup de chances qu'ils prennent votre autre bouquin. Après, pour les éditeurs, ce n'est pas forcément un plus, mais c'est loin d'être un moins. Je peux donner un exemple, parce qu'il y a des gens qui se pincent un peu le nez sur le prix du Quai des Orfèvres, ils disent « Ouais, c'est le prix des flics ». Déjà, ce n'est pas vrai. Il faut savoir que sur 70 lauréats, il n'y a eu que 10 policiers qui ont eu ce prix. Et que la plupart de ces 10 policiers, comme Daniel Thierry, par exemple, étaient déjà auteurs de livres, comme Jourdain aussi. Donc, c'est pas, certes, nous sommes des policiers qui ont eu le prix, mais on était déjà auteurs.
Ça faisait plus de 30 ans que je n'étais pas allé. Cette nuit, j'y suis retourné. J'ai pu voir que les temps avaient bien changé. Le monde ici avait dérapé. Je croyais y voir un monde de magie, de bonheur et d'espoir et de fantaisie. Une fois passé la porte, j'étais bien déçu. L'ambiance était morte, ce monde n'était plus. J'accoste une poule qui a l'air éreintée. Elle me dit qu'il fait nuit trois fois dans la journée. Elle était sur ce mur et picolait du vin pur. Picole ci, picole ça, baisse ses verres et puis s'en va. Au bistrot des comptes, il n'y a plus que les gueules cassées. Les 3-8 en usine les ont bousillés. Où sont donc les comptines d'antan que me chantait ma maman? Vient d'entrer l'alouette complètement déplumée. Elle repère sa cadette et s'assoit à côté. Mais qu'as-tu donc fait, ma petite hirondelle? C'est vrai, quand même, ils t'ont bien amoché. Je croyais passer en toute discrétion. J'ai volé du blé, j'ai pris trois coups de bâton. J'ai été licencié, j'ai plus de maison. J'attends d'être jugé, j'irai en prison. Tout au fond, j'entends des verres exploser. Ainsi le patron vient à m'expliquer. Marionnettes ont été abusées. Elles ont perdu la tête et boivent pour oublier. Elles font fondre des glaçons à grands coups d'anisette. Au bistrot des comptes, il n'y a plus que des torchons. C'est l'alcool et la déprime qui ont eu raison. Où sont donc les comptines, les comptines d'antan que me chantait ma maman? Je m'esquive à l'autre bout du comptoir. Cacahuète et olive, un petit homme m'offre à boire. Il me parle de son histoire, celle d'une drôle de maison qui serait en carton. J'ai du mal à le croire. Il me raconte que des engins sont passés, que sans aucune honte, ils ont tout rasé. Y'a un mondial de foot qui doit bien se passer. Ils refont les routes et cachent la pauvreté. Je décide de prendre l'air, je me sens oppressé. Je prends la porte derrière, je dois m'échapper. Je sentais une atmosphère hostile à mon arrivée. Il y avait très peu de lumière. Mais partout des fêlés qui faisaient des affaires. Un furet courait,
la tête contre les murs. Il répétait sans cesse que les bois n'étaient plus sûrs. Plus loin, une vieille tenait dans ses bras son chat mort la veille d'une cirrhose du foie. Un meunier dehors était en panique, son cœur battait fort, il battait trop vite.
Une souris verte qui fumait de l'herbe m'a demandé ce que je voulais consommer.
Je l'attrape par le callback, je n'ai plus le choix. Je prends mes clics et mes claques, c'en est trop pour moi. Au bistrot des comptines, y'a plus que des camés. Y'a pourtant bien une héroïne dans cette finalité. Où sont donc les comptines, les comptines d'antan que me chantait ma maman. Au bistrot des comptines, je ne peux plus y aller maman. Les gens de cette ville, ville, ville m'en ont dégoûté.
Maintenant.
On est toujours avec Pierre Poucheret, auteur de multiples romans noirs. Pierre, vous avez une particularité. C'est pas tellement que vous êtes un ancien flic, mais vous êtes surtout un ancien flic qui a fait beaucoup d'années à l'étranger. Vous nous le disiez la semaine dernière, en Turquie, vous avez été en Afghanistan, vous avez séjourné aussi en Cisjordanie. En ce moment, mais pour des raisons plutôt amoureuses qu'autre chose, vous passez pas mal de temps en Afrique. Quel est le poids de votre expérience à l'étranger dans votre vie d'auteur ?
Ah ben, cette expérience à l'étranger, c'est ce qui illustre tous mes livres. J'ai commencé par j'ai deux livres qui se passent en Israël-Palestine où je mets en scène une policière palestinienne, Maïssa, et deux policiers israéliens, Guy et Dani. Et les faits vont les obliger à travailler ensemble avec toutes les difficultés qu'on peut imaginer. Et tout ça, c'est illustré par les 3 ans que j'ai passés à Naplouse, en Cisjordanie. Mes personnages, les lieux qui sont visités, c'est que des endroits sur lesquels j'ai travaillé et que j'ai connu. Pareil sur l'Afghanistan, puisque avec la filière afghane, j'ai un héros policier niçois qui va aller enquêter sur un trafic de drogue, et tout ça va l'amener jusqu'à Kaboul, puis ensuite jusque dans le Helmand, au fin fond de l'Afghanistan. Tous les personnages, tous les lieux, tout ça fait appel à beaucoup de souvenirs. Et c'est également le cas dans mon dernier, hein, puisque toute cette expérience m'a permis d'illustrer le livre de Tuer les tous, mais pas ici, qui se passe en partie en Turquie. Et évidemment, comme vous venez de le dire, ma femme travaille actuellement au Cameroun, et donc je partage mon temps entre la Bretagne et le Cameroun, et forcément ça va être un lieu où il va certainement se passer une aventure policière.
Mais alors pendant votre vie professionnelle, vous avez travaillé à Grenoble, à Nice aussi je crois, ça vous inspire pas trop ça ?
Ben, si aussi, puisque j'ai des héros qui travaillent à la police judiciaire de Nice, donc ça m'a inspiré. Pour la prophétie de l'anglais, mon héroïne Johanna, c'est une commandante de la brigade criminelle de la police judiciaire de Versailles, qui a été mon premier service. Donc oui, tous les lieux où je me suis promené m'inspirent.
Qu'est-ce qu'ils en pensent, vos anciens collègues ? Ils vous en parlent des fois ?
Alors, en général, j'ai de très bons retours. Hein. Même parfois, y a des collègues qui se plaignent de pas être dans le roman. Hein. Voilà. Peut-être que certains sont très contents de pas y être, hein, inversement.
Bon, merci beaucoup, Pierre, et à une prochaine fois, j'espère. Au revoir.
Merci beaucoup.